إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، nous continuons et nous allons finir inshallah la lecture de sourate al-Kahf ainsi que son explication en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset 99 de Surat al-Kahf: En ce jour, nous les laisserons déferler comme les flots les uns sur les autres. On soufflera alors dans la trompe et nous rassemblerons toutes les créatures. En ce jour, nous présenterons la Jehenne aux mécréants, dont les yeux étaient voilés à ceux qui suscitent mon rappel et qui ne pouvaient entendre la vérité. Ceux qui ont mécru, pensent-ils pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi? Nous avons préparé la Jehenne comme demeure pour les mécréants. Dis, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien? Ceux qui renient les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs œuvres sont vaines, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution, la Jehenne, pour avoir mécru et s'être moqué de mes signes et de mes messagers. Jusqu'au verset 107. Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de ce jour-là où il laissera déferler les gens les uns sur les autres, cela peut vouloir dire deux choses. Soit il parle de Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj, qui déferleront sur les hommes en si grand nombre qu'ils rempliront la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, « Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yanzilun » jusqu'à ce que les Gog et Magog sortiront et déferleront de toutes parts. Ou cela peut aussi concerner les créatures qui seront réunies le jour de la résurrection et qui seront tellement nombreuses qu'elles déferleront les unes sur les autres en raison des affres de ce jour et des immenses tremblements qui auront lieu. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala informe qu'il sera soufflé dans la trompe et nous les réunirons dans un grand rassemblement. Nous présenterons alors la Jahannam aux mécréants qui la verront devant leurs yeux, ceux dont les yeux étaient voilés par rapport à mon rappel et qui ne pouvaient entendre mes avertissements. Quand Israfil aura soufflé dans la trompe, Allah tabaraka wa ta'ala fera réintégrer les âmes dans leur corps, puis les rassemblera pour le jugement dernier. Tous seront réunis, les premiers comme les derniers, les mécréants comme les croyants, afin d'être jugés et rétribués pour leurs œuvres. Les mécréants, au-delà de leur différence de degré dans la mécréance, auront tous la Jahannam pour demeure, où ils y resteront éternellement. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit « Nous présenterons alors la Jahannam aux mécréants qui la verront devant leurs yeux. » Comme Allah Tabaraka Ta'ala a dit dans un autre verset que la Jahannam apparaîtra alors aux égareurs. Et que le feu sera attisé, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, et que le feu sera attisé pour eux, pour les accueillir, qu'Allah nous en préserve. Donc, quand ce feu sera présenté aux mécréants, afin qu'ils goûtent à ses chaînes, à sa fournaise, à sa chaleur, à son grand froid rigoureux, pour prix de leurs œuvres et comme rétribution de leur comportement. Car dans ce bas monde, leurs yeux étaient voilés par rapport au rappel d'Allah. C'est-à-dire que leurs yeux étaient enveloppés d'un voile qui les empêchait de voir les signes utiles d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, il y a un voile sur leurs yeux. Wa ala absarihim rishawa. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, okanu la yastati'una sam'a, et qui ne pouvait entendre mes avertissements. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient entendre les versets d'Allah menant à la foi en raison de leur haine, de leur aversion pour le Coran, de leur aversion pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de leur aversion pour l'islam, cette religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui déteste et qui aborde quelqu'un ne peut jamais écouter ses propos. Une fois que les voies et les moyens de la science et du bien deviennent fermés devant eux, il ne leur reste plus ni oui, ni vue, ni intelligence utile. Ils ont renié Allah et rejeté ses signes en traitant d'imposteurs ses messagers. Par conséquent, ils auront mérité la Jahannam et leur funeste sort. Les mécréants s'imaginaient-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi? Nous réservons aux injustes incrédules la Jahannam comme séjour. Il s'agit là de ceux qui ont pris comme adoration Isa, Jésus, alayhi salam, en dehors d'Allah, ou Maryam, la mère de Isa, alayhi salam, en dehors d'Allah, ou qui ont pris en adoration même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, ou les saints, ou les pieux, ou les anges en dehors d'Allah. Et c'est une preuve et une déclaration concernant la nullité de la prétention des polythéistes et des mécréants qui ont pris certains prophètes et saints comme associés à Allah, en les adorant et en prétendant qu'ils seront des protecteurs pour eux et qu'ils les mettront à l'abri du châtiment d'Allah et leur feront obtenir sa récompense alors qu'ils ont renié Allah et ses messagers et ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur dit à titre d'interrogation blâmable, impliquant la nullité de leurs prétentions, les mécréants, s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi? C'est-à-dire que cela ne saurait avoir lieu, car celui qui devient l'ennemi d'Allah ne peut être l'allié d'un ami d'Allah, d'un prophète ou d'un saint qui est un ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans la mesure où les amis d'Allah et ses saints se conforme à ce qu'Allah aime, à sa satisfaction, s'éloigne de ceux qui provoquent la colère d'Allah et son animosité. Aussi, il concrétise al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, aimer pour Allah, détester pour Allah, s'allier pour Allah, se désavouer et prendre à partie pour Allah. Donc ils ne peuvent pas aimer les gens qui les ont pris en adoration en dehors d'Allah. De ce point de vue, cela devient similaire à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Le jour où il les rassemblera tous, puis dira aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Gloire à toi, répondront les anges. Tu es notre maître en dehors d'eux. Aussi, celui qui prétend être l'ami proche d'Allah, celui qui prétend être l'ami d'un rapproché d'Allah ou d'un bien-aimé d'Allah, alors qu'il est lui-même l'ennemi d'Allah, est un menteur. Car celui qui est proche d'un ami et d'un bien-aimé d'Allah, il suit les prescriptions d'Allah, il ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à ses messagers. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Et il a dit: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. Allah ta'ala dans le sens a dit: dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah, mais ils ne possèdent aucun pouvoir d'éloigner le mal de vous ni de le détourner. Il a dit aussi dans le sens: ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir d'intercession. Il en est ainsi des autres versets dans lesquels il est rappelé que celui qui prend en dehors de lui un protecteur pour lui venir en aide, est un égaré ayant désespéré de toute récompense et de toute espérance et ne pouvant pas atteindre son but. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant d'eux: nous réservons aux mécréants la Jahan pour séjour comme demeure éternelle, et quelle mauvaise demeure que la leur, et quel funeste refuge que celui qui les accueillera. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec, en disant: dis, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec, ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir? Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur ainsi que leur comparution devant lui. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur et ne pèseront pas lourd dans la vie future. Et c'est l'enfer qui sera leur rétribution pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes messagers. Allah Ta'ala dit ici: ô Muhammad, dis aux hommes, à titre d'avertissement et de mise en garde, voulez-vous que je vous informe qui sont les plus perdants parmi vous? Ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font comme œuvre devient vain et se dissipera alors qu'ils penseront avoir bien agi. Qu'en est-il alors des œuvres qu'ils savent être vaines et contraires aux préceptes d'Allah et à la ligne de conduite de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont donc ces hommes dont les œuvres sont vouées à la perte et à l'échec, qui perdront leurs âmes et leurs familles le jour de la résurrection? N'est-ce pas là la perte la plus évidente? Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens-là qu'ils perdront leurs âmes et celles de leurs familles le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve et qu'il nous garde sur le droit chemin. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur ainsi que leur comparution devant lui. C'est-à-dire qu'ils ont renié les versets du Coran et les signes visibles qui impliquent l'obligation de croire en Allah tabaraka wa ta'ala, en ses anges, en ses messagers, en ses livres et au jour dernier, ainsi qu'à la destinée bonne ou mauvaise. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur à cause de cela et ne pèseront pas lourd dans la vie future. Car ce qui sera lourd le jour de la résurrection sera constitué par les bonnes œuvres. Or, ces gens-là n'ont aucune bonne œuvre en raison de l'absence de la condition sine qua non afférente, en l'occurrence la foi. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens de sa parole, celui qui accomplit de bonnes œuvres, tout en étant croyant, n'aura à craindre ni à subir une injustice, ni à être lésé dans ses œuvres. Ni à être lésé dans ses œuvres. Cependant, leurs œuvres seront dénombrées et comptées, et ils les reconnaîtront et y souscriront. Ensuite, il leur sera fait affront devant toutes les créatures, puis ils seront châtiés en conséquence. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Et c'est l'enfer qui sera leur rétribution, en raison de la perte de leurs œuvres. Et le jour de la résurrection, les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur, en raison de leur insignifiance et de leur iniquité pour avoir renié les versets d'Allah » et tourner en dérision ses signes et ses messagers. Alors que ces signes et ses messagers impliquent forcément la foi complète et la vénération totale. Or, ces gens-là se sont mis aux antipodes de cette question, et les conséquences de leurs actes se sont retournées contre eux en subissant le châtiment, le courroux et la colère éternelle. Après avoir montré le sort des mécréants et leurs œuvres, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre les œuvres des croyants et leur sort. Et il dit dans le sens de sa parole, à partir du verset 107, « Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils auront pour séjour les jardins du paradis, où ils y demeureront éternellement, sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer servait d'encre aux paroles de mon Seigneur, la mer serait tarie sans que les paroles de mon Seigneur aient été épuisées, quand bien même nous y ajouterions une quantité équivalente. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, mais il m'a été révélé que vous n'avez de véritable Dieu si ce n'est un Dieu unique. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. » Allahu tabaraka wa ta'ala, en parlant de ceux qui ont cru avec leur cœur et accompli de bonnes œuvres avec leurs organes, cela englobe, il va de soi, la religion dans son sens général, que ce soit ses croyances, ses actes, ses principes, ses questions subsidiaires, qu'ils soient apparents ou cachés. Ces gens-là, au-delà de la disparité de leur foi et de leurs bonnes œuvres, mériteront les jardins du paradis. Dans le verset ici, Allah Ta'ala dit « Jannatul Firdaus », les jardins du Firdaus, qui est le plus haut lieu du paradis, le meilleur, qui est en son centre et au plus haut. Et quand Allah Ta'ala parle ici du jardin du Firdaus, il faut entendre le paradis le plus haut, celui du milieu et le meilleur d'entre tous. Mais cette rétribution sera accordée à ceux qui auront parfait leur foi et leurs bonnes œuvres. Il s'agit des prophètes et des rapprochés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'Allah nous compte parmi eux. Il se peut aussi qu'il faille entendre ici, quand Allah Ta'ala parle du Firdaus, il parle du meilleur endroit du paradis, mais il veut dire par là qu'il y a la récompense des jardins du paradis pour tous les croyants, bien que le Firdaus, le meilleur endroit du paradis, ne soit atteint que par les meilleurs parmi les croyants. Ainsi donc, les jardins du Firdaus seront la demeure et la maison d'hôte des gens de la foi et de bonnes œuvres. Et quel accueil sera plus majestueux, plus grand et plus sublime que cet accueil qui contient toute forme de félicité pour les cœurs, les âmes et les corps, et dans lesquels on trouve tout ce que désirent les âmes et qui égaye les yeux, comme maison coquette, jardin pittoresque, arbres fruitiers, oiseaux gazouillants et chantants, mets succulents, boissons agréables, femmes belles et élégantes, domestiques et garçons à la jeunesse éternelle, rivières coulantes, vues splendides, beauté sensitive et spirituelle et félicité permanente. Au-dessus de tout cela, il y aura une récompense encore meilleure et plus grandiose, à savoir le fait de jouir de la proximité du miséricordieux et d'obtenir sa satisfaction, qui est la plus grande des faveurs du paradis, ainsi que la jouissance de la vue de sa noble face et l'écoute de ses paroles sublimes. Ya Allah, que cet accueil est majestueux et excellent, parfait et éternel. Il est au-dessus de toute description et de toute imagination. Si les hommes avaient une idée d'une partie de cette félicité, leur cœur volerait de désir et d'aspiration, et leurs âmes se languiraient de la souffrance de la séparation de cette récompense et de cette demeure. Ils courront vers elle en masse et par individu sans lui préférer ce bas monde éphémère et maudit et ses plaisirs imparfaits et périssables. Ils ne rateront pas des moments qui s'en vont en pure perte, mais l'insouciance enveloppe beaucoup de gens. La foi s'est affaiblie dans les poitrines, la science a diminué et la volonté s'est émoussée, donnant naissance à la situation dans laquelle nous vivons. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Cette demeure où Allah Ta'ala a dit où ils y demeureront éternellement indique la perfection et le summum de la félicité, à savoir que cet état de béatitude et de joie dans lequel ils se trouveront sera éternel et permanent, sans jamais désirer aucun changement, sans désirer aucun changement et aucun déplacement. C'est-à-dire que les gens du paradis ne se lasseront pas de ces plaisirs. Ils ne demanderont pas une autre alternative ou un autre endroit, car ils n'y verront que ce qui leur plaît et les réjouit, sans voir de félicité plus grande que la leur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ses paroles, en disant dans le sens « Si la mer servait d'encre en vue d'écrire les paroles de mon Seigneur, elle se serait tarie sans que les paroles de mon Seigneur aient été épuisées, quand bien même nous l'aurions doublée d'une autre mer en guise d'encre. » c'est-à-dire, dis-leur en les informant de la grandeur du Créateur et de l'ampleur de ses attributs que les hommes ne peuvent cerner à tout point de vue si la mer, c'est-à-dire toutes ces mers qui se trouvent dans ce monde, servait d'encre en vue d'écrire les paroles de mon Seigneur, c'est-à-dire que tous les arbres de ce monde, du premier au dernier, que ce soit les arbres des pays, des montagnes ou des mers, soient des plumes. Elles se seraient taries et les plumes se seraient cassées sans que les paroles de mon Seigneur aient été épuisées. Il s'agit là d'une chose extraordinaire que nul ne peut cerner. Dans un autre verset, Allahu subhanahu wa ta'ala dit: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Dans le sens, si tous les arbres de la terre étaient des plumes, et qu'à la mer on adjoigne sept autres mers en guise d'encre, cela ne suffirait pas à épuiser les paroles de ton Seigneur. Certes, Allah est puissant et sage. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est un attribut parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit là d'une manière de rapprocher l'essence des mots des entendements, car ces choses-là sont créées, et tout ce qui est créé est éphémère et périssable. Quant aux paroles d'Allah, elles font partie de ses attributs. Or, ces attributs ne sont pas créés, n'ont pas de limite ni de fin. Aussi, quelle que soit la grandeur et l'ampleur que les cœurs puissent imaginer, Allah est au-dessus de cela. Il en est ainsi de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, sa sagesse, son pouvoir, sa miséricorde, etc. Si on réunit la science de toutes les créatures parmi les premiers et les derniers, les habitants des cieux et ceux de la terre, elle sera par rapport à la science du Tout-Puissant de moindre envergure qu'un oiseau qui se pose sur le bord de la mer et prend dans son bec un peu d'eau de cette vaste mer. Ceci parce qu'Allah possède des attributs puissants, immenses et parfaits, et parce que c'est vers lui que tout aboutit. Subhanahu wa ta'ala. Puis dans le dernier verset de cette sourate, Allah ta'ala dit dans le sens à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: je ne suis qu'un homme semblable à vous, mais recevant une révélation selon laquelle votre Dieu est le seul et vrai Dieu unique. Aussi que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse œuvre pie et qu'en adorant son Seigneur, il ne lui associe personne. Allah Ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, aux mécréants et autres: je ne suis qu'un homme semblable à vous. C'est-à-dire, je ne suis pas un Dieu, que je ne suis pas associé dans le royaume divin, que je ne connais pas l'invisible et que je ne possède pas les trésors d'Allah. Dis, je ne suis qu'un homme semblable à vous, c'est-à-dire un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Mais je reçois la révélation selon laquelle votre divinité, votre Dieu, Allah, est le seul et unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire que j'ai été préféré à vous par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui me révèle et qui me révèle les choses les plus sublimes et me donne les informations du ciel que je vous rapporte selon laquelle votre Dieu est un Dieu unique. C'est-à-dire Allah est le seul et vrai Dieu et qui mérite d'être adoré. Toutes les autres divinités et dieux sont des faux dieux, qui n'a pas d'associé, subhanahu wa ta'ala. Personne en dehors de lui ne mérite l'adoration, ne serait-ce que du poids d'un atome. Je vous appelle aussi aux œuvres qui vous rapprocheront de lui, vous font obtenir sa récompense en vous mettant à l'abri de son châtiment. C'est pour cela qu'il dit aussi que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse œuvre pie, fasse des bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres conformes à l'islam, à la sharia, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. Et ça, c'est une condition d'acceptation de l'œuvre. Elle doit être conforme à ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'en adorant son Seigneur, il ne lui associe personne. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas preuve d'ostentation dans ses œuvres, mais qu'il se dévoue à Allah seul. Celui qui arrive à réunir entre la sincérité dans ses actes, c'est-à-dire le tawhid, et vouer les actes à Allah seul, et la conformité, que ses actes soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, obtiendra ce qu'il désire et espère, alors que celui qui se met en porte-à-faux avec cela aura perdu ici-bas et dans l'au-delà et aura raté le rapprochement avec son Seigneur et l'obtention de sa satisfaction. Avec ceci, nous avons terminé la lecture et l'explication de Sourate Al-Kahf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.